France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que l'Assemblée nationale débat du budget 2026, la taxe dite Zucman continue d'alimenter les discussions et de diviser la classe politique et médiatique. Pensée par l'économiste Gabriel Zucman visant à instaurer un impôt plancher consistant à taxer à hauteur de 2% les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, la mesure a été rejetée en commission. Quant au débat en séance plénière, le ministre de l'économie a déclaré ce matin le débat sur la taxe Zucman aura lieu, mais pas aujourd'hui parce que je dois partir à l'étranger mercredi. Mais derrière ce bras de fer budgétaire, c'est le rôle même du chercheur et de l'économiste qui s'invite dans le débat public. Que faire quand le travail scientifique devient un enjeu politique? Comment le chercheur doit-il se positionner dans le débat public vis-à-vis des responsables politiques? Un invité ce soir donc pour nous éclairer sur cette question, Gabriel Zucman. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'École normale supérieure et directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Vous venez de publier aux éditions du Seuil l'ouvrage intitulé « Les milliardaires ne payent pas d'impôts sur le revenu » et nous allons y mettre fin. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Alors votre nom est partout, Gabriel Zucman, dans le débat public actuellement. La taxe même qui porte votre nom a été débattue sur tous les plateaux de télévision. Alors je voudrais que l'on prenne un autre chemin pour tenter d'avancer ensemble dans cette discussion et tenter de comprendre comment vous travaillez en tant que chercheur, en tant qu'économiste. Et pour commencer, une question toute simple. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour dévoiler les contributions réelles des milliardaires au trésor public? C'est une question que l'on se pose. Pourquoi a-t-il fallu tant de recherches pour avancer sur ce sujet?
Parce qu'il y a un vide de la statistique publique sur ces questions, qui, en France, est en général excellente. Hein, les comptes nationaux de l'INSEE, les différentes enquêtes, les statistiques fiscales sont de très bon niveau, mais elles ne nous disent rien du montant des fortunes des très riches, de leurs revenus, ni des impôts dont ils s'acquittent. Et il a fallu tout un travail de recherche mené par différentes équipes, en partenariat avec les administrations fiscales, qui est un travail récent qui a eu lieu depuis 3 ou 4 ans. En France, c'est mes collègues de l'Institut des politiques publiques qui l'ont mené, ce travail. Mais il y a eu des études aussi aux États-Unis, dans les pays scandinaves, au Brésil, aux Pays-Bas, etc. Et ce qu'on a appris de tout ça, ça a été une révélation. Ça a été un choc parce que ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a au cœur de nos systèmes fiscaux une anomalie, puisque l'anomalie, c'est que les milliardaires ne paient pas ou presque d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire que plus d'un siècle après la création de l'impôt sur le revenu, qui a eu lieu en France en 1914, dans la plupart des pays riches aussi au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, cette révolution, grande révolution démocratique et républicaine, reste une révolution inachevée. C'est ça dont on s'est rendu compte, et c'est le constat qui est à la base des réflexions qu'on a eues collectivement pour essayer d'apporter une réponse à ce problème.
Alors, d'un point de vue très didactique, je voudrais qu'on retrace ensemble le chemin qui vous a permis d'accéder à cette révélation, à cet ensemble de révélations. Commençons par quelques notions d'économie. Quelle est la différence entre le revenu national et le revenu fiscal, et pourquoi partir du revenu national pour entreprendre vos recherches?
Très bonne question. Alors, il faut remettre effectivement tout ça dans le contexte du champ d'études dont on parle, qui est la question de l'analyse de la distribution des prélèvements obligatoires. Question dont on pourrait se dire qu'elle est très simple, mais qui en fait est assez difficile, la question de savoir quel montant d'impôts payer véritablement par les différents groupes sociaux, hein, les classes populaires, les classes moyennes, les classes aisées, quel est leur taux de prélèvement obligatoire?
On parle là de tous les impôts, je le précise.
Tous les impôts.
La TVA, l'impôt sur le revenu, la CSG, l'ensemble de ce que l'on doit à l'État.
Voilà, question qui est au cœur de la vie démocratique. Quelles sont les contributions des uns et des autres? C'est un champ d'études qui a commencé dans les années 40, hein, qui a été inauguré par deux économistes qui exerçaient aux États-Unis, Gerhard Kolm et Helen Tarasoff, qui s'est développé ensuite avec des économistes comme Richard Musgrave et beaucoup d'autres, et auxquels j'ai moi-même contribué. Et pour bien répondre à cette question, qui paye quoi, eh ben, il faut deux ingrédients essentiels. Il faut prendre en compte l'ensemble des prélèvements obligatoires, parce que sinon c'est arbitraire. Si on se concentre sur un seul impôt, par exemple l'impôt sur le revenu, il est plutôt payé par les riches. Mais c'est trompeur, parce qu'il y a aussi la TVA qui est plutôt payée par les classes populaires, les classes moyennes. Et d'autre part, il faut une définition qui soit complète également du revenu. Parce que si on regarde que le revenu qui est déclaré dans les feuilles d'impôt, c'est pas suffisant, puisque la technique principale qu'utilisent les grandes fortunes pour échapper à l'impôt, c'est précisément de structurer leur patrimoine de façon à ce que cette fortune génère peu de revenus taxables. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'elles n'ont pas de revenus économiques. Et donc, le revenu national, il inclut tous les revenus véritablement perçus par les Français, quelles que soient les structures juridiques que les personnes utilisent pour percevoir ce revenu. Et donc, c'est en se fondant sur le revenu national qu'on peut calculer des taux d'imposition qui soient véritablement comparables entre groupes sociaux et entre pays.
Et ce revenu national inclut même les revenus issus de l'étranger, contrairement à une autre notion, le produit intérieur brut. Alors, on va donner les chiffres. Le revenu national français, il s'élève à 2440 milliards d'euros. Ça veut dire que, en moyenne, chaque adulte perçoit 48 000 euros par an, chaque adulte français. Et sur cette masse, on paye, l'adulte français moyen, 51% d'impôts. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça reflète simplement nos choix en matière de solidarité nationale, en matière d'éducation, de santé, d'investissement public dans les infrastructures. Le fait que le français moyen paye 51% de ses revenus en prélèvement obligatoire, tout prélèvement compris, ça reflète nos choix en matière de modèle social. Choix dont, de mon point de vue, il faut se féliciter, car tout démontre qu'ils ont été au cœur de la croissance de la productivité, en particulier l'investissement dans l'éducation, dans les services publics, dans les infrastructures, mais aussi au cœur du mouvement historique vers plus d'égalité et aussi au cœur des mouvements vers plus de démocratie. Donc, choix très important, mais qui ont une contrepartie très simple, c'est que simplement, le français moyen est relativement lourdement imposé, au même titre d'ailleurs que le norvégien moyen ou le suédois moyen.
Ça, c'est pour le français moyen, Gabriel Zucman. Si on regarde maintenant la question que vous posez initialement, selon les catégories sociales, est-ce que un français issu d'un milieu populaire paye plus ou moins d'impôts qu'un français aisé, sans parler des milliardaires pour le moment?
Alors, si on regarde les différentes catégories sociales, prenez les classes populaires qu'on va définir comme les 50% des Français qui ont les revenus les plus faibles. En moyenne, le taux de prélèvement obligatoire pour ce groupe, c'est 45% environ. Les classes moyennes, c'est-à-dire les 40% suivants, entre la médiane et le 90e percentile, pour eux, c'est environ 50% le taux de prélèvement obligatoire. Et pour les classes aisées, c'est-à-dire les 10% les plus riches, à l'exception des milliardaires, on va y revenir, pour les classes aisées, on monte à 53-54%. Donc, pour résumer, deux choses. Premièrement, contrairement à une idée tenace, toutes les catégories sociales payent dans l'ensemble beaucoup d'impôts. Deuxièmement, il y a une petite progressivité de notre système fiscal, mais quand même pas très forte, c'est-à-dire qu'on monte de 45% à 50%, un peu plus de 50%, on est dans tous les cas pas très loin de la moyenne de 51%.
Qui est plus faible que ce que la progression de l'impôt sur le revenu laisse entendre dans tous les cas.
Voilà, mais parce que l'impôt sur le revenu, vous savez, c'est que moins de 10% de l'ensemble des prélèvements obligatoires, et sa progressivité, elle est annulée par la régressivité de la TVA, des nombreux autres impôts sur la consommation, etc., comme je l'explique dans le livre.
Et dans ce paysage social, Gabriel Zucman, il y a en revanche une exception, c'est l'exception des milliardaires. Alors à quel point, justement, sortent-ils leur épingle du jeu, si je puis dire, dans ce paysage fiscal ?
Ils s'en tirent plutôt bien, puisque ce que les travaux de mes collègues de l'Institut des politiques publiques ont révélé, c'est que pour les milliardaires, le taux de prélèvement obligatoire, c'est 13%, si on regarde ce qu'ils payent à la France. C'est-à-dire, et je veux que tout le monde comprenne ce chiffre. D'abord, en impôts personnels sur leurs revenus, si on additionne l'impôt de solidarité sur la fortune, puisque l'étude de l'Institut des politiques publiques porte sur l'année 2016, à la veille de son abolition, la somme des impôts personnels, c'est 2% de leurs revenus. Si on ajoute ensuite à ça l'impôt dont leurs entreprises s'acquittent, par exemple LVMH paye de l'impôt sur les sociétés, ou L'Oréal, etc. Si on regarde les impôts dont ces entreprises s'acquittent en France, ça rajoute 12 points, donc on arrive à 13%. C'est le taux effectif d'imposition acquitté par les milliardaires français au trésor public français. En plus de ça, ces entreprises que nos milliardaires possèdent, elles sont très internationalisées, donc elles payent aussi de l'impôt sur les sociétés À l'étranger, aux États-Unis, en Chine, dans d'autres pays européens, ça rajoute à peu près 12 points. Donc maintenant, si on regarde leur taux mondial d'imposition à nos milliardaires français, c'est 25% de leurs revenus. Mais vous voyez que, quelle que soit la façon dont on regarde les choses, c'est nettement moins que ce que paye le français moyen et même les classes moyennes et les classes populaires. Tout compris, 51% pour le français moyen contre 25% pour les milliardaires. Et là, il y a cette anomalie que j'expliquais, au sens où cette inégalité vient bafouer le principe qui, en France, a valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt. Pourquoi ? Parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 13, pose le principe d'égalité devant les charges communes. Et cette Déclaration des droits de l'homme, elle est reprise en préambule de la Constitution de la Ve République. L'interprétation minimaliste qu'on peut faire de ce principe, c'est que l'impôt ne devrait pas pouvoir être régressif. C'est-à-dire que les gens très fortunés ne devraient pas pouvoir payer moins que les catégories sociales situées en dessous d'eux. Or, c'est précisément ce que les études récentes ont mis en lumière. Nos lois fiscales ne respectent pas notre principe d'égalité devant l'impôt.
Est-ce que cette exception fiscale que vous décrivez, Gabriel Zucman, a toujours existé, j'allais dire, depuis que l'impôt sur le revenu français existe? Est-ce que les milliardaires ont toujours réussi à échapper en partie à l'impôt?
Oui, sans doute. Il faut rester prudent parce que, comme je le disais, l'étude de l'Institut des politiques publiques, elle ne porte que sur une année, 2016. Mais les techniques qui sont utilisées par les milliardaires, on peut penser qu'elles ont toujours, peu ou prou, été à l'œuvre. Et ce, dans la plupart des pays. Il y a une exception qui est le cas des États-Unis, que je trouve particulièrement intéressant parce que le débat qu'on a en France, les États-Unis l'ont eu dans les mêmes termes dans les années 30. En 1933, le New York Times a révélé qu'une des plus grandes fortunes américaines de l'époque, J.P. Morgan, n'avait pas payé d'impôt sur le revenu en 1932 et en 1931. Ah, ça a provoqué un scandale. Audition au Sénat, enquête du ministère des Finances américain. Et la conclusion de tout ça, c'est que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient effectivement échapper à l'impôt sur le revenu en utilisant des sociétés holding, comme le font nos milliardaires à nous, ces sociétés holding qui font écran à l'impôt sur le revenu, donc qui lui permettaient de ne pas déclarer de revenus fiscal. Mais ce qui s'est passé, c'était à l'époque du New Deal de Franklin Roosevelt. Roosevelt a dit « on va pas tolérer ça ». Et donc les Américains ont mis en œuvre des règles pour pénaliser lourdement l'utilisation de sociétés holding, à tel point qu'aujourd'hui, cette technique-là d'optimisation fiscale qui est au cœur de l'évitement de l'impôt par nos milliardaires à nous, elle n'existe plus aux États-Unis.
On rappelle ce qu'est fondamentalement la taxe que vous avez proposée, dessinée. Il s'agit d'instaurer un impôt plancher consistant à taxer à hauteur de 2% les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Je voudrais vous faire commenter un amendement proposé par le Parti Socialiste dans le cadre du projet de loi de finances qui est examiné actuellement à l'Assemblée nationale. Le Parti Socialiste propose, lui, la création d'un impôt plancher de 3% sur les fortunes de plus de 10 millions d'euros, avec deux moyens de contourner cet impôt, si l'on détient plus de 50% d'une société, et si ces entreprises innovantes, en tout cas si on a investi dans ces entreprises innovantes. Le Parti Socialiste appelle cela la taxe Zucman Light. Est-ce qu'elle vous semble appropriée, efficace, et j'allais dire à même de répondre aux défis d'égalité devant l'impôt ?
Alors d'abord, il y a un aspect positif qui est que cette proposition entérine le principe de l'impôt plancher. C'est un acquis maintenant. Et je veux que tout le monde comprenne ce dont il s'agit. L'impôt plancher, c'est simplement de dire que les contribuables extrêmement riches devraient payer un minimum. Par exemple, si le minimum c'est 2%, c'est-à-dire si aujourd'hui vous avez payé en impôt sur le revenu l'équivalent de 2% de votre fortune, vous n'auriez rien de plus à payer. Mais si vous êtes à l'équivalent de 1,5%, alors vous devriez payer la différence, 0,5%, pour arriver à 2%. Ça, c'est puissant parce que ça vient concentrer l'effort sur les personnes qui sont à la fois extrêmement fortunées, 10 millions ou 100 millions, mais sur celles qui, parmi ce groupe de la population, payent peu d'impôts aujourd'hui. Donc c'est un peu le dispositif le plus ciblé et le plus juste que l'on puisse envisager. Maintenant, dans la proposition qui a été formulée par le Parti Socialiste, il y a effectivement des échappatoires que vous avez rappelés. Or, moi, mon travail de chercheur, ça a été d'étudier l'expérience historique en matière d'imposition des grandes fortunes, l'ISF par exemple, les impôts comparables qui existaient dans d'autres pays. Et la leçon que la communauté scientifique a tirée de tout ça, c'est que créer des échappatoires dans cette imposition des grandes fortunes, c'est prendre le risque de lancer la machine à optimisation fiscale. Et c'est effectivement ce qui avait été au cœur de l'échec de l'ISF. Car l'ISF a été un échec politique, intellectuel. En 1981, le pouvoir socialiste dit créer un impôt sur les grandes fortunes, mais dans le même geste, il en exonère toutes les plus grandes fortunes de l'époque en excluant de l'assiette de l'ISF les mal nommés biens professionnels, c'est-à-dire les grosses détentions actionnariales. Si vous possédiez plus de 25% du capital d'une entreprise, toute cette fortune était sortie de l'assiette de l'ISF.
Notion absente du code fiscal.
Or, c'est ça la richesse des milliardaires. Oui, qui a été créée de toutes pièces en 1981. Or, c'est ça la richesse des milliardaires, c'est détenir des gros paquets d'actions. Donc si on sort ça de l'impôt, bah finalement on ne taxe plus les très grandes fortunes. Problème dont il faut tirer les leçons. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de répéter les errements passés, il faut tirer les leçons de ce qui a été fait. Et une des grandes leçons, c'est que si on veut taxer efficacement les grandes fortunes, il faut avoir un dispositif qui n'a pas d'échappatoire, car c'est ça qui est la clé du rendement budgétaire, de l'efficacité et donc de la justice.
Il y en a un deuxième que la recherche scientifique met en lumière, c'est qu'il faut une assiette la plus large possible. C'est ce qui empêche ou en tout cas entrave les moyens d'optimiser justement une situation fiscale. Expliquez-nous comment et pourquoi.
Dès que vous introduisez ce que...
Rappelons peut-être d'ailleurs ce qu'est une assiette large.
Une assiette large, c'est-à-dire ne pas offrir d'échappatoire, ne pas créer de niche fiscale, ne pas créer d'exonération. S'assurer que qu'il n'y ait pas de façon de finalement optimiser. Pourquoi est-ce que c'est important, spécialement pour les gens très riches? Parce qu'ils sont conseillés par des avocats fiscalistes et que donc si on leur permet d'échapper à l'impôt avec ses échappatoires, avec ses niches fiscales, eh bien, on risque de réduire le rendement budgétaire. Donc ça, c'est une des recommandations centrales que les économistes spécialistes de finances publiques aiment bien répéter. Ils aiment bien dire qu'il vaut mieux un impôt sur une assiette large qui n'est pas mitée de niches, etc. En l'occurrence, l'assiette pour l'impôt sur les grandes fortunes, l'impôt plancher que je propose, elle est très large, non seulement au sens qu'il n'y a pas d'échappatoire, mais aussi que le montant de patrimoine de ces fortunes en question est très élevé. C'est-à-dire que si vous regardez le classement challenge des 500 plus grandes fortunes françaises, aujourd'hui, leur fortune, c'est l'équivalent de 42% du PIB. En 1996, première année du classement challenge, c'était seulement 6% du PIB. Donc, pourquoi est-ce que ces chiffres sont intéressants? Parce que, comprenez bien l'arithmétique, si on taxe à 2% une assiette qui représente 6% du PIB, bah ça rapporte de l'ordre de 0,1 point de PIB de recettes fiscales supplémentaires. On est un peu dans l'épaisseur du trait. Mais si l'assiette c'est 42% du PIB et que vous taxez ça à 2%, bah ça va rapporter de l'ordre de 0,8 point de PIB. Ce qui, dans un contexte budgétaire où on cherche à réduire le déficit public de l'ordre de 2 à 2,5 points de PIB à moyen terme, là tout d'un coup prend toute son importance.
Est-ce que vous avez le sentiment, Gabriel Zucman, de faire de la politique ou d'être un chercheur qui a été aspiré par le débat public, le débat politique?
Moi, je pense que le rôle des chercheurs en sciences sociales, c'est pas de garder les connaissances juste pour eux-mêmes ou pour un petit cercle d'universitaires. Les savoirs, par exemple, sur le montant de l'évasion fiscale. J'ai travaillé pendant 15 ans sur essayer d'objectiver les techniques d'évasion des grandes fortunes, la dissimulation des patrimoines dans les paradis fiscaux. Tout ça n'a pas vocation à rester comme ça dans la tour d'ivoire. Mais au contraire, il me semble qu'il est très important pour le chercheur de contribuer à l'appropriation citoyenne des savoirs. Première chose. Et deuxième élément, c'est que pourquoi cette appropriation citoyenne des savoirs est importante? Parce qu'elle va pouvoir servir à alimenter un débat démocratique. Le rôle du chercheur, c'est pas de dire il n'y a pas d'alternative, on ne peut faire que ci ou ça. C'est l'inverse. C'est au contraire d'expliquer l'éventail des possibilités sur chaque sujet. C'est vrai, en particulier de la taxation des grandes fortunes. Il y a tout un tas d'approches possibles. Le chercheur peut alerté au regard des expériences internationales, au regard des expériences historiques sur les conséquences, les coûts ou les bénéfices que pourraient avoir ces différentes approches possibles. Mais dans le fond, il s'agit d'expliquer tout ce qui est faisable pour que les citoyens puissent ensuite voter bien informés et que tout ça alimente un débat démocratique, car c'est la seule façon dont on peut trancher ces questions. Il n'appartient à personne, économiste, technocrate, personne, de dire qu'elle devrait être le juste taux d'imposition. Tout ça ne peut être décidé que par la délibération démocratique et le vote.
Vos propositions sont plutôt soutenues, réappropriées par, des responsables politiques de gauche, des partis de gauche. En France, on le sait, mais quand on pense également à l'impôt mondial sur le capital que vous avez participé à dessiner, il avait été soutenu aux États-Unis par Elizabeth Warren, par Bernie Sanders également. Est-ce que vous vous fixez des règles, une éthique dans les échanges que vous entretenez avec des responsables politiques, ou bien tous les échanges sont permis parce que les responsables politiques, par construction, ce n'est pas non plus une matière dangereuse ?
Moi, je parle à tous les responsables politiques qui sont sincèrement intéressés par comprendre, s'approprier les résultats des études et réfléchir aux avantages et aux inconvénients de différentes options. Et donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai travaillé avec Elizabeth Warren, avec Bernie Sanders en 2019-2020, qui portaient des projets ambitieux en matière d'imposition des grandes fortunes. Elizabeth Warren voulait taxer les milliardaires à plus de 5%. Bernie Sanders proposait d'aller jusqu'à 8% au-delà des fortunes de plus de 10 milliards de dollars. Mais ce que je leur dis, c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'écris dans mes livres. Enfin, tout ça est exactement la même chose.
Vous avez des échanges en France avec des responsables, des partis marqués, inscrits à droite ?
J'ai échangé avec des parlementaires du socle commun, bien sûr.
Page 4 de votre livre, vous écrivez les propos suivants. À 21 ans, j'épluchais les archives des banques suisses. Je me plongeais dans les balances des paiements des pays avec un but, quantifier le montant des avoirs dissimulés dans les centres financiers offshore, mieux comprendre cette grande évasion longtemps abstraite, mais qui finirait avec les Panama Papers au mi-temps des années 2010 par faire la une des journaux. Pourquoi ce choix à 21 ans de la discipline économique, et pourquoi ce choix de se plonger dans cette matière qui, a priori, pour le lecteur que je suis, peut sembler aride ?
J'ai été très influencé, comme tous les chercheurs en sciences sociales d'ailleurs, par le contexte dans lequel j'ai eu à faire mes choix d'orientation, mes choix professionnels. En l'occurrence, quand j'avais 21 ans, en 2008, c'était la crise financière, le début de la crise financière mondiale, et j'essayais de comprendre ce qui se passait, et c'est là où je me suis plongé dans les statistiques d'investissement internationaux, les données du FMI sur les balances des paiements, dans lesquelles on voit des centaines de milliards de dollars qui transitent par les centres financiers offshore, et ça crève les yeux, c'est-à-dire quand on regarde ces données, et en même temps, les économistes en parlaient très peu à l'époque. Il y avait des travaux d'ONG ou de chercheurs en sciences politiques, mais enfin, très peu de choses en économie. Donc, j'ai voulu comprendre un peu comme un détective quelle était l'histoire qui se cachait derrière tout ça. Qu'est-ce qui était légal, illégal? Qu'est-ce qui avait pu contribuer à l'instabilité financière, qui était un grand sujet à l'époque? Est-ce que finalement, on sous-estimait pas le niveau d'inégalité? Et c'est ça qui m'a donné envie de me plonger à la fois dans l'histoire du développement des places financières offshore et puis dans les implications que ces sommes d'argent pouvaient avoir pour tout un tas de sujets contemporains.
Comment est-ce que vous définissez l'économie comme discipline ? Vous dites parfois qu'il s'agit d'une science sociale et civique. Ce qualificatif-là de civique, qu'est-ce qu'il signifie ?
C'est avant tout une science sociale, c'est-à-dire que les frontières disciplinaires ne doivent pas être trop rigides. Dans mes travaux, j'essaye parfois d'avoir une approche historique, je m'intéresse de plus en plus aux relations internationales, donc je pense que c'est très important que l'économie soit en dialogue avec les autres sciences sociales. Quand j'étais étudiant, j'avais cofondé avec plusieurs de mes camarades la revue Regard croisé sur l'économie, donc le but c'était bien de replacer l'économie au cœur et en dialogue avec les autres sciences sociales.
Merci beaucoup, Gabriel Zucman, de cet échange et d'avoir retracé avec nous le déroulé de vos recherches et de vos découvertes. J'appelle que vous êtes économiste, professeur à l'École Normale Supérieure, directeur de l'Observatoire Européen de la Fiscalité. Vous avez publié le 24 octobre dernier aux éditions du Seuil, Les milliardaires ne payent pas d'impôts sur le revenu, et nous allons y mettre fin. Merci d'être venu ce soir dans Question du Soir, et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain à la réalisation. C'était Léa Racine.